Chapitre 2. Entre Vernon et Lisieux, j'ai été pris d'une colère singulièrement grotesque. J'étais seul dans mon compartiment, affalé dans un coin, me refusant à penser, anéanti, redoutant par-dessus tout de sortir de cette sorte de léthargie où j'avais trouvé lâchement un refuge passager. Et voilà que tout à coup je fis explosion. « Eh bien, es-tu content, hein ? Tu y vas, Deauville ?» Et je me bourrais de coups comme un enfant, en m'injuriant comme un charretier. Ma rage stupide était comparable à celle de cette sotte fille qui, dans un conte de Perrault, pouvant formuler des vœux qui eussent fait sa fortune, avait désiré une aune de boudin, l'avait vue descendre par la cheminée, puis sauter à son nez, et avait épuisé son destin en souhaitant d'être sur le champ débarrassé de cette encombrante charcuterie. J'allais à Deauville, mais que n'aurais-je donné pour en être déjà revenu? Qu'est-ce que me réservait ce damné monsieur Prime? En vérité, je le connaissais si peu. Quant à maître Antonin Rose, il ne pouvait plus en être question, du moins pour le moment. J'avais vendu mon moi contre un visage, le 101e de l'illustre Mr. Flow. Ma personnalité se réduisait désormais à n'être qu'un portrait de plus dans sa collection, une simple épreuve retouchée. Et encore, je devais veiller à ne pas trop l'abîmer dans mon désespoir. Dans une glace, je constate que ma cicatrice n'a pas trop souffert de ma gesticulation ridicule. Je suis plus brique cuite que jamais. Mon haleine doit être d'une fraîcheur d'alcool à 90. Encore une colère comme celle-ci et je serai très « pick me up ». Cette façade me donne 10 ans de plus. Deauville. Je descends derrière mes lunettes, raide comme un gentleman qui n'a pas lâché les tabourets du bar depuis 8 jours, et j'injurie copieusement, dans un anglais de Cockney, un gamin qui, à la sortie, veut me prendre de force ma valise. Je monte dans l'autobus du Royal. Pas de chambre, naturellement, nous sommes à la veille des courses. Je demande si Lady Scarlett est chez elle, et je prie qu'on lui fasse parvenir mon Bristol d'urgence. 5 minutes plus tard, on vient me chercher, et je suis un faquin solennel, sans avoir lâché mon sac. Ahurissement du maître d'hôtel, on veut me débarrasser de mon fardeau, je grogne. Je dois avoir une figure redoutable, on n'insiste pas. Un luxueux appartement au rez-de-chaussée, grandes portes ouvertes sur les parterres fleuris. Du reste, des fleurs, il y en a partout. Ce salon est en plein, et des plus rares, des orchidées à faire rougir un singe. Une femme de chambre, des plus coquettes, me fait entrer dans un boudoir. Nom d'un rat, Lady Helena doit laisser quelque chose derrière elle, comme sillage embaumé. Les parfums, surtout les moins timides, ceux qui avouent audacieusement leur destin de viol, m'ont toujours bouleversé. Je ne sais déjà plus ce que je fais là, ni surtout ce que je vais faire. Un rôle pareil, c'est au-dessus de mes moyens. Je vais me trahir tout de suite. Elle est jolie, Lady Helena, très jolie. J'ai vu son portrait dans la collection Durin. Si j'avais été moins bassement inquiet, je me serais certainement attardé à la contemplation de certains détails. Je me rappelle, par exemple, que ses seins nus, car il y avait des photos d'une intimité. Oh, je sens que lorsqu'elle va être là, je vais bégayer, que mes gestes vont être ridicules ou odieux. Est-ce que je sais, moi, comment on parle à une lady? À une lady qui couche avec son domestique. On peut se croire tout permis, et alors? Alors c'est que l'on peut se faire remettre à sa place. Ça doit se donner comme une reine, une femme comme ça, ou vous chasser comme une impératrice. On n'a plus qu'à s'en aller à quatre pattes. Et si je fuyais, tout simplement? Après tout, moi je suis un honnête homme. Ce n'est pas parce qu'une suite fatale de circonstances m'a imposé une trogne fleurie de délirants Goodfellow et jeté dans les jambes un nécessaire de cambrioleur pour que je continue à jouer un rôle auquel ni mes antécédents, ni une solide éducation familiale, ma profession, je l'ose dire, m'ont préparé. Jusqu'alors, quand je me suis assis sur les bancs de la correctionnelle et même de la cour d'assises, si peu, ça n'a jamais été sur celui des coquins. Mon devoir est de les défendre, tout juste, mais de là à me déguiser pour faire leur commission. Au surplus, elle est faite, la commission de Durin. Et elle vaut bien 100 louis, ma parole. Je ne la referai pas plus pour 10 000. Hum, 10 000 louis, oh, il vaut mieux ne pas y réfléchir. Eh bien non, la moustache à la Charlot m'a fait passer un trop mauvais quart d'heure. Maintenant, allez, adieu, Durin, nous sommes quittes. Je n'ai qu'à laisser le sac, l'enveloppe, et je me lève pour saluer Lady Helena. Elle est en pyjama. Elle sort du bain. Bigoum, des culottes lamées d'argent habillant des jambes. Des bras nus sortent du tissu métallique qui se gonfle sur une poitrine d'airain doré, laquelle se cache à peine. Cette chasse va à cette déesse impudique d'Orient, parée pour le music-hall. Car enfin, elle ne dort pas là-dedans. Une beauté comme on n'en rencontre que chez les Juives, des yeux immenses, d'une volupté tranquille et permanente, une bouche toute petite, une tache de sang. Pour le reste, je vous renvoie au cantique des cantiques. J'en ai la respiration coupée. Elle est restée sur le seuil, souriant, me regardant, semblant attendre quelque chose. Et puis, comme je ne bouge pas, c'est tout juste si elle ne me saute pas au cou. Oh, darling! Et elle me saisit les mains en me regardant avec ravissement. Elle semble toujours attendre cette chose qui ne vient pas. Moi, je lui baise les mains, ahuri. Alors elle éclate d'un rire fou qui me consterne. Ben, job, quel drôle d'homme vous faites, Mr. Prime. Je suis très, très heureuse de vous voir en vérité. Vous n'avez pas beaucoup changé depuis 2 ans. Et je vois que vous soignez toujours cette chère cicatrice. Comme je vous comprends. Such a horrible scar. Oh, I beg your pardon. Vous avez changé un peu. Vous étiez un peu plus, comment dirais-je, un peu moins en couleur. Yes, oh, I'm delighted to see you. Excuse me. Elle me fait asseoir tout près d'elle, trop près, et son babil continue. Ce cher baronet sera désolé de vous avoir manqué à Deauville. Il est dans sa propriété d'Écosse. Il m'écrit tous les jours pour me recommander la lecture de la Bible. Oh, that Bible! Vous savez qu'il m'a fait quitter la région catholique. Je pourrais faire cela pour lui, le très cher. Catholique, protestante, qu'est-ce que c'est? C'est toujours notre chère religion, Jésus. Elle lève un doigt menaçant. Surtout que l'on ne me dise pas que je suis juive, j'ai horreur. Mon arrière-grand-père était, je vous ai déjà dit, je crois, oui, juif roumain, pauvre vieux cher homme. Mais depuis 2 générations, nous sommes tous sauvés dans les bras de Jésus. Sans cela, le baronnet ne m'aurait jamais épousé. Of course not. Il faut que l'on sache cela. Ici, vous le répéterez partout. Je vous serai obligé, voulez-vous? Yes. Ah. Je voulais vous dire encore, Mr. Prim, vous êtes habillé drôlement aujourd'hui. Très cocasse, on dit, je crois. Pourquoi ce petit costume? C'est à vous, cette valise? Je vais me venger d'un coup de tout mon émoi. Je vais la foudroyer et je lance. Non, c'est à Durin. Durin, was that Durin? Le dernier valet de chambre de votre mari. Ah, oh, Achille. Il s'appelle Achille. Ah, nous les appelons toujours Achille. C'est plus commode, oui, vraiment. Et pourquoi vous apportez la valise d'Achille? Je la regardais bien en face. Take off your glasses. Enlevez vos lunettes, je vous prie. Vous avez de si beaux yeux, Lawrence. Je croyais la troubler. C'est moi qui ne sais plus où me mettre. Je me recule un peu, mais c'est elle qui m'enlève mes lunettes. Encore un moment bien dur à passer. Heureusement, elle me regardait à peine et était devenue très grave subitement. Lawrence, laissez-moi vous appeler Lawrence, comme lorsque nous étions à Milan, voulez-vous? Vous nous avez recommandé une très méchant faquin, Lawrence. Oh, je sais. Mon mari a été plein de bonté pour lui et il lui a volé bêtement, si bêtement, un bijou ridicule. Mon mari lui pardonne, mais moi je ne lui pardonne pas. No, never. Mon embarras a grandi. Je ne sais comment, Durin, Achille, oui, Achille, ainsi que j'étais de passage à Paris. Il m'a fait tenir par son avocat un pli qui m'a chargé de vous remettre. L'homme de loi a insisté sur l'extrême urgence qu'il y avait à vous faire tenir en main propre ce paquet. Je sors la grosse enveloppe que je laisse sur une table. Et j'ai dû me charger en même temps de cette valise qu'il confie à vos soins. Oh, vous parlez à travers votre chapeau. Quelle histoire, en vérité! Cette fois, le rire de Lady Helena sonna faux. You'll excuse me, Mr. Prim. Et d'un coup de ciseau, elle ouvre le paquet. Hâtivement, elle y jette un coup d'œil. Aussitôt, « Oh, yes, je vois ce que c'est. Pour Achille. Voilà une affaire sans aucune importance. Parlons d'autre chose, voulez-vous? D'abord, nous dînons ensemble ce soir. It's yes, it's neat. » Et la valise, insistai-je. « Eh bien, my dear, la valise. Je la garde, c'est entendu, puisque mon mari, quoi que j'ai pu lui dire, s'obstine à vouloir reprendre ce domestique qui lui a écrit des lettres d'un grand et tout à fait faux désespoir, et qui lui jouera encore quelques méchants tours, avant qu'il soit longtemps, je jure. Milady, déclarai-je, s'il ne dépend que de moi, il s'en séparera. J'ai été trompé, moi aussi, et je ne regretterai jamais assez. My dear Lawrence, nous dînons ensemble ce soir. Le baronnet vous invite. Yes, he does. Il est en Écosse, mais il nous a laissé sa table aux ambassadeurs. Où êtes-vous descendu? Here, au Normandie, peut-être? Excusez-moi, Milady, mais je dois reprendre le train ce soir. That's impossible. Alors, vous êtes venu que pour Achille? Cette fois, elle ne rit plus. Elle paraît furieuse, singulièrement. Et voilà qu'elle parle, qu'elle parle. Que dit-elle? Ma foi, je n'en sais trop rien. Étonnement, colère, dépit, inquiétude, indignation, rancune, soupçon de voir son indigne secret lui échapper, honte d'une aussi grossière turpitude pénétrée par un ami du baronnet. C'est peut-être cela et autre chose, mais elle exprime cela en tant de langues diverses et qui me sont inconnues, dans un tel mélange d'idiomes, dans un si fulgurant sabir, que je n'y comprends goutte. Quant à moi, je ne sais où me fourrer. Finalement, elle vient vers moi. Elle me brûle de son haleine, de tout son parfum, de sa chair de faunesse, de la flammérité de ses yeux. Oh, vous avez bien changé, Mr. Prim, de toutes les façons. Non, non, ce n'est pas vous. Je ne vous reconnais plus. Elle ne me reconnaît plus. Très dangereux, cela. Je balbutie. J'ai demandé une chambre, l'hôtel est plein. Voilà tout ce que j'ai trouvé. Déjà, elle sonne, elle demande le directeur. Elle exige une chambre pour moi tout de suite. Et je vois bien qu'on n'a rien à lui refuser. Je ne sais pas qui l'on va expulser, mais je coucherai au Royal ce soir. Et ce ne sera pas pour rien. Une chambre à 600 francs. J'espère qu'on la mettra sur la note du baronnet. Je vais faire transporter les bagages de monsieur, fait l'homme obséquieux. Mais je n'ai pas de bagages, je n'ai eu que le temps de sauter dans le train, et je ne pensais venir que pour quelques heures. Stupéfaction amusée de Lady Helena. Alors vous n'avez pas de tuxedo? Oui, ce qu'il s'obstine à appeler smoking en France. Ah, dis, oh, cela est grand, quelle histoire! Mary, vous ferez porter un des tuxedos du baronnet dans l'appartement de M. Prime, et du linge, et tout ce qu'il lui faut. Dear, je vous donne Mary, elle vous habillera comme votre mère. Yes, baby. Le baronnet prétend qu'il n'y a qu'elle qui réussisse son nœud de cravate. Vous avez même taille avec le baronnet. Right away, it's okay. Là-dessus, le maître d'hôtel déclare qu'il va envoyer chercher mon sac de toilette. Non, ceci est pour moi. Mary, ce sac dans ma chambre. Helena rit. Oh, poor old dear, il est venu sans une brosse à dents. On nous laisse seuls une seconde. Elle jette ses mains à mes épaules. Come on, Lawrence. Vous n'avez pas pensé que je vous laisserais partir comme cela? J'ai cru que je n'avais qu'à accueillir le bouton de rose de sa bouche, mais elle m'a repoussé nerveusement. « Laissez-moi m'habiller, à 9 heures aux ambassadeurs, bye bye !» Et elle me flanqua à la porte. « Bon, Dieu non, je ne vais pas partir comme cela. »« Ah bien, Sir Lawrence, tous mes compliments, mon cher. »« Mais faut-il que je lui ressemble ?» Durin savait évidemment ce qu'il faisait en me voyant au numéro 25, et je sais bien qu'elle ne l'a pas vu depuis 2 ans, le numéro 25. Tout de même, je ne saurais douter qu'ils se sont connus de bien près. Et rien ne m'a trahi, rien, pas même le son de ma voix. Il est vrai encore que j'ai sorti un mélange de français et d'anglais assez confus. Mon succès me rassure à la fois et m'inquiète. Au fond, je ferais bien le filet, mais je reste. Les heures qui vont venir promettent d'être trop intéressantes et je ne suis inquiet que parce que je sais, mais elle, puisqu'elle ne se doute de rien. Elle se souvient d'un caprice, voilà tout. C'est une femme à ne plus se soucier de rien le lendemain matin. Où a-t-elle été chercher son parfum? J'en suis encore étourdi. Et il me manque déjà. Parfait, le tuxedo du patron. Le pantalon un peu court, mais sans excès. Et pas de bedon, le baronnet. Un gilet chol et une lingerie. Un plastron, une cuirasse et une perle. Si l'illustre Mr. Flo la voyait, right home, Mary. Je sors les petits ingrédients de Victor pour la façade et la cicatrice. Tout cela colle comme du vrai. Comme dit Lady Helena, quelle histoire, quelle histoire! Vrai, je m'amuse. Je sens que je suis à la hauteur. Ça ne m'était pas arrivé depuis longtemps. Et cette chambre, cette salle de bain, oh, je n'ai plus aucun remords, aucun. Des remords de quoi? J'ai rendu service à une femme, j'ai peut-être sauvé l'honneur d'une famille, Je l'ai déjà dit, mais je ne saurais trop me le répéter. Me voilà paré, et comment? J'ouvre ma fenêtre, elle aussi donne sur la mer, sur les pelouses fleuries. Je n'ai qu'à me pencher pour apercevoir l'appartement d'Héléna. La mer au loin, la mer qu'on ne voit jamais à nos villes, vieux cliché, fait une barre laiteuse à l'horizon et m'envoie son haleine réconfortante et douce. Il me semble que je respire pour la première fois, que je n'ai commencé vraiment à vivre que depuis cette minute qui m'a mis le masque d'un autre sur le visage, le vêtement d'un autre sur les épaules, et ce billet de 1 000 francs que mes doigts froissent dans ma poche. Un déguisement, allons donc. Je ne suis vraiment moi-même que maintenant. Je suis né pour vivre riche, heureux, aimer les femmes. La preuve en est que je mourrai de consomption dans le cadre étriqué d'une existence où un sort odieux et aveugle surtout m'avait jeté. Cette aventure, qui a commencé par être ridicule, peut être l'origine d'une fortune fabuleuse. Déjà, je n'admets plus que je puisse retomber dans mon trou, réintégrer la nuit de ma cave. La chance vient, pourquoi n'en pas profiter? À moi de réaliser ce conte de fées. Une femme m'aime, une femme du monde, une vraie lady. En tout cas, si elle ne m'aime pas encore, elle m'aimera demain. J'en fais mon affaire. Cette nuit, mes bras se refermeront sur elle. Sois audacieux, alors. Cours ton risque. Si tu sais t'y prendre, cette Héléna peut te sortir de la bouise. J'ignore comment on l'aimait Lawrence, mais je lui montrerai ce que c'est qu'un ermite de 24 ans de la rue des Bernardins qui a préféré vivre chaste plutôt que de prostituer sa jeunesse aux bonnes niches en bas de soie des dancing du quartier latin. Allons, une cigarette et que la fête commence. Quand je traverse le hall, je me sens plus d'assurance au cœur qu'un fils d'Amérique héritier du roi du cochon que Fortunio allant recouler sa chanson sous la fenêtre de sa maîtresse et même que le prince de Galles poussant les portes enchantées de la vie. Et vite au casino. Personne dans la grande salle d'entrée, puis une large galerie à peu près déserte. Je ne veux rien demander à personne. Ce serait me diminuer. Cependant, cette solitude m'étonne. Sur la gauche, la salle des ambassadeurs. J'entre, suivi ou plutôt arrêté par les maîtres d'hôtel. Il n'y a plus une table libre, monsieur. Et cependant, il n'y a pas un client. On dîne tard à Deauville, il est près de 9 heures. La table de Lady Charlotte, ah, là-bas, monsieur. Mais Lady Héléna ne dîne pas avant 9h30. Il a dit Lady Héléna. C'est l'heure, Lady Héléna. Je profite de cette adoration. Lady Héléna, déjà, me protège. Le faquin est à mes ordres. Je ne l'écoute plus. Raide comme la justice, je ressors sans ajouter un mot. J'ai le genre, tout de suite, je le sens. C'est inné, ces manières-là. Ma mère était une demoiselle de Dardan, une très vieille, très très vieille famille, alliée aux Dardan de Montfort. Ruinée à plate couture, naturellement, quand elle a consenti à épouser mon père. À propos, ça ne ferait pas mal sur mes cartes. Maître Antonin Rose de Dardan de Montfort. En attendant, mon vieux, le Bristol qui est dans tout ton portefeuille te fait prime. Prime tout sec. Jusqu'alors, je ne m'en plains pas. Tiens, si j'allais faire un petit tour au baccarat. La salle est justement en face. Sois sincère, tu ne penses qu'à cela. Ton billet de 1 000 francs te démange. Un peu de chance, hein? Oh, cela ferait bien dans le paysage. Allons, allons, tu dois tout tenter ce soir. La fortune te pousse, vas-y donc. J'y vais. 180 francs d'entrée, c'est chéreau pour tes 50 louis. Tristesse de fin de partie. À cette heure, tout le monde s'habille pour le dîner. Il n'y a plus que quelques enragés, quelques décavés, quelques vieilles rombières qui s'accrochent aux sabots comme des naufragés au radeau de la Méduse. Je m'assieds avec un air d'ennui parfait à une table à 3 louis le départ. Ils sont là, 5 qui défendent de leur dernière pécune avec une parcimonie touchante. La main est à 15 louis et personne n'en veut. Elle passe devant moi, je l'arrête et je donne. On m'abat 8. Oh, ça commence bien. Je retourne mes cartes, 9. Et 2 abattages qui suivent. Oh, je suis maître de cette piètre partie. On ne me fait plus que quelques louis. Je continue à ramasser. La table se vide. Je reste avec un banco de 40 louis, sans contrepartie aucune. Le croupier va suspendre la partie. Tout à coup, j'entends « Banco !» De nouveaux arrivants, quelques femmes en grande toilette. Avant d'aller dîner, on vient faire un petit tour. En somme, j'ai passé 6 fois. Je devrais m'en aller. Mais c'est plus fort que moi. Je donne et je gagne. Et je donne encore le banco suivant et je gagne toujours. J'ai 7 000 francs environ de bénéf. Une main à mon épaule et la voix d'Héléna. « Oh, darling, vois cette table purée !» Elle dit « purée ». Au fait, elle a raison. Je me lève, raflant mes jetons d'un geste désabusé. Pour boire princier au croupier et au changeur. « Come on, allons dîner !» me dit-elle. Je la regarde. Un éblouissement. D'abord, tout le buste entièrement en peau jusqu'à la pointe des seins et toute cette chair dorée sortant d'un étroit et long calice de taffetas noir bordé de strass en arabesques étincelantes. Très simple, mais là-dessus des perles, des joyaux, pour des millions. Au cou, un collier qu'il m'est impossible d'évaluer. 10, 15, 20 millions. Aux oreilles, de prodigieux pendentifs d'émeraude. Aux bras, des anneaux d'esclavage, comme Salomon n'en a peut-être pas vu à la reine de Saba. Elle m'a pris le bras. Tout le monde nous regarde. Et des chuchotements. « C'est Lady Helena ! C'est Lady Helena ! Mais avec qui donc est-elle ? Ce n'est pas moi qui vous le dirai, braves gens. » Lady Helena me présentera toujours trop tôt. Enfin, elle est avec quelqu'un qui a 8 000 francs dans sa poche et une femme de 20 millions à son bras. Après, on verra bien. Je me sens prêt à crever d'orgueil. On m'envie. Si mes confrères pouvaient me voir passer, renvoi après vacation. Faites, Seigneur, qu'elles durent les vacations. Je n'ai plus aucun goût pour mon métier, moi. Je veux faire des affaires, de grandes affaires, des affaires mondiales. Lady Helena me donnera un coup de sa belle épaule. Et le jour n'est peut-être pas loin où l'on ne se demandera plus quand je passerai avec Helena mon bras. Qui donc est ce monsieur ? On dira. Comment, vous ne le connaissez pas ? Mais c'est le célèbre X, oui, mettons X. Qui brasse tant d'affaires avec l'Amérique, ou avec le Japon, ou avec la Chine, ou même avec les Soviets. Ça commence à être bien porté. Il a perdu 3 millions hier au privé. Oh, rêve, rêve, c'est ton parfum qui me grise, exaltante Helena. À la sortie, dans la galerie qui nous sépare des ambassadeurs, un géant hindou tout en rubané, ceinturé de toits soit éclatantes, retenant les armes les plus singulières, s'incline comme devant un temple et nous emboîte le pas. Oh, Hang Hit, la barbe fait Elena, c'est mon domestique. Le baronnet a toujours peur qu'on me vole mon collier. Et il ne vous quitte pas. Quand j'ai mes bijoux, il vous fait peut-être aussi surveiller. Est-il jaloux? Très, il m'aime tant, le très cher. Il faut pardonner, mais je fais arrangement avec Mary pour Fatty. Elle m'en débarrasse, oui. Il est en amour avec Music. Le restaurant est à peu près plein. Toutes les têtes se tournent vers nous. Des saluts des gentlemen qui se lèvent au passage. Baise-main, 7 couverts à notre table. Les convives sont déjà là et nous attendent en vidant une bouteille de Porto ou en buvant des cocktails. Joyeux accueil, présentation, 4 hommes, 2 femmes. Un Canadien qui possède une province et des mines d'or au Klondike. Sa grâce le duc de Worcester. Un aga khan quelconque qui se prétend dieu chez les hindous. Un sportsman dont le nom m'échappe. Un journaliste américain que tout le monde appelle Harry, qui connaît tout le monde et qui, entre deux plats et entre deux danses, va bavarder à toutes les tables. Citroën, ni Hennessy ne lui échappe, pas plus que Lord Roth, qui a une concession de terrain diamantifère à quelques journées du Cap, ni le Maharaja de Kapurthala, ni Marthe Chenal, ni Maria Levy, si drôle avec son smoking bleu sur une robe de pétales de rose. À toutes les tables, il sent avoir son verre. Et il ne cesse de prendre des notes. Il boit comme un trou, il travaille comme un nègre et s'amuse comme un dieu. Il gagne un argent fou avec ses correspondances pleines des inventions les plus extravagantes, des potins les plus stupides. Aucun esprit, mais il est un peu là. Quand il parle français, il tutoie Elena. Et il peut tout dire. Cette reine a son fou. J'ai dit 2 femmes. Elles sont décolletées jusqu'aux lombes. Et jolies. Mrs. Burlington, la 30aine ou la 40aine, on ne saura jamais, même dans 10 ans, est l'air d'un bébé qui ne boirait que du lait. C'est effrayant ce qu'elle absorbe. Et mince et délicate et fragile, et les yeux d'une clarté, une vraie sentimentale. La femme du plus grand cacaillier du Massachusetts a du penchant pour Harry. L'autre, une ancienne artiste, une danseuse anamite, que Lady Elena a connue aux Indes et qui a fait un beau mariage avec un directeur d'assurance de Bombay. C'est une très jolie petite chose qui ne boit que de l'eau, qui semble ne rien entendre, ne rien comprendre, ne rien voir, d'étranges yeux de verre vert et des ongles d'or. Je suis à la droite de Lady Elena. Elle fait un très grand honneur au champagne extra dry. Elle tient tête à Mrs. Burlington. Harry nous raconte le dernier scandale de la plage. Une terrible prise de bec entre Miss Lillian Burke et Miss Merrill à propos d'un maillot d'écaille d'argent de 20 000 francs offert par cette honorable présidente de la Ligue des femmes tatouées à la petite Nikita, une danseuse cambodgienne venue de Whitechapel. Le maillot avait été commandé par Miss Burke, qui l'avait trouvé trop cher. Mrs. Merrill, mise au courant, avait fait l'affaire tout de suite. Fureur de Miss Burke, qui avait rencontré sa rivale dans la cabine de Nikita. La querelle continuait sur la plage, jusque dans la lame où elles arrachaient le maillot sur la peau nue de Nikita, qui ne prononçait pas un mot et qui dégageait de tout à tour, brassée sur le large. On l'attendait à la sortie, comme vous pensez bien. On fut volé. Elle eut 2 peignoirs apportés décemment par ces dames. Sur les planches, le gros Monsieur Merrill fumait sa pipe, jovial, racontant que sa femme voulait lui tatouer sur les poignets des versets de la Bible. Pendant ce récit, j'imaginais que Lady Helena regardait avec une singulière insistance l'ex-petite danseuse anamite qui était assise en face de moi et qui avait tourné vers l'amphitryonne sa petite tête précieuse et énigmatique. Mais on ne sait jamais avec Helena, cette magicienne. Elle est le centre rayonnant d'une volupté latente. Ses yeux immenses fixent n'importe quoi et n'importe qui avec la même inquiétante tranquillité dans le bonheur, dans le bonheur de tout. J'ai à peine dit quelques mots, soudain passif dans sa présence, dans son parfum, dans l'air qu'elle expire et que je respire. Mon cœur et mon sang obéissent au rythme qui soulève près de moi ces deux seins cuivrés, qui font trembler d'impatience les paumes de mes mains recourbées comme des coupes à vide. Et je sens soudain, sur mon pied, la pointe de son soulier d'argent. Est-ce un hasard? Je veux savoir. Je déplace mon pied, mais on insiste. Je dois rougir sous mon rouge. J'éclate d'orgueil et Helena éclate de rire en me regardant. Se moque-t-elle de moi? Après tout, c'est bien possible. Non, elle a reconquis son Lawrence et elle souligne sa victoire. Il semble que le jazz n'attendait que l'entrée des Dolly Sisters pour que le Batteryman devienne subitement fou. Un jazz déchaîné, les nègres glapissent au-dessus de leur banjo. Un peu de Charleston dégarnit les tables. Helena s'est levée, tous les convives aussi d'un même mouvement. Mais c'est avec moi qu'elle veut danser. Moi, qui n'ai jamais esquissé un pas de tango. Moi qui ignore le shimmy et le Charleston. Excusez-moi, fis-je, fait une chute de cheval récemment et la danse m'est momentanément interdite. Elle ne paraît pas contente, Lady Helena. What a pity, fait-elle. Et elle se laisse prendre la taille par le jeune duc de Worcester, auquel elle réserve désormais tous ses sourires. Je n'existe plus. Je ne sentirai plus la pointe de son soulier. Ce Lawrence devait être un parfait danseur. Et il avait raison. Je commence à comprendre que si l'on veut réussir dans la vie, aujourd'hui, réussir à tout, il faut d'abord savoir danser. Je suis mûr, je fais pleuvoir des vérités premières. Un ingénieur, un médecin, un homme d'affaires et même un basochien qui ne sait pas danser est condamné d'avance à la plus obscure médiocrité. Ce sont des phrases de primaire. Primaire et des armées. C'est la faute des programmes. Buvons, il n'est jamais trop tard pour s'instruire. En attendant, je vais essayer d'être spirituel. Avec quelques histoires marseillaises accommodées au goût anglais, je parviens à faire rire l'honorable société qui n'a rien compris. Seule Helena ne rit pas. Je suis furieux. Du reste, on ne m'écoute plus. Il n'y a plus de conversation possible avec les danses. Il n'y a même plus de dîner. Et comme les numéros vont commencer, Helena prend le bras de Mina, le petit nom d'amitié qu'Helena donne à l'ex-danseuse anamite et l'entraîne. Allons jouer. Nous suivons tous, moi, Mossad. D'abord, je ne tiens pas à perdre mon argent. Trop précieux, mes 8000. Depuis que cette femme s'est détournée de moi, me voilà retombé à une mentalité de rond de cuir. Qu'en feras-tu de tes 8000 francs, idiot? Tu veux acheter un chalet démontable pour tes vieux jours? Un sursaut, heureusement, et c'est le salut. Je jette tout ce que j'ai d'un coup sur le tapis. La chance qui me retrouve digne d'elle me double ma mise. Et me voilà reparti, le cerveau embrasé par des idées de viol. La fortune, Héléna, je veux tout avoir. Que s'est-il passé? Comment s'est accompli ce miracle? Quelle voix secrète me guide? Qui me pousse d'une table à l'autre, les mains pleines de billets et de jetons? C'est moi qui ai dit banco? C'est moi qui prends cette main? Je gagne, je reprends, je regagne. Mes poches sont pleines. Et me voici sur le seuil du privé. En ai-je assez entendu parler de cette salle? Et des fortunes qui s'y perdent s'y refont en quelques minutes? Une hésitation avant de pénétrer dans le sanctuaire où les femmes ne sont pas admises. Or, maintenant, je voudrais revoir Héléna. Je me retourne, mais je ne l'aperçois pas dans cette cohue. Dommage, je sens que je suis dans une minute où rien ne me résiste. L'habit d'un millionnaire me donne toutes les chances et toutes les audaces. Heure brûlante, le vent de folie de la grande semaine commence à souffler ce soir et soulève dans son tourbillon les grands papiers bleus et les lourdes plaques. Les femmes, dans les toilettes qui les dénudent, n'ont plus un sourire pour les hommes. Un restant de coquetterie, pas même. Un geste impulsif, l'habitude, pour se poudrer devant la petite glace, se passer le bâton de rouge sur les lèvres entre deux bancos. À la grande table du chemin de fer, les plaques de 10 000 empilées devant les joueurs disparaissent ici, reparaissent là, comptées et recomptées par les femmes, fortune éphémère, tandis que ces messieurs, fumant des cigares énormes, affectent de jouer pour le seul plaisir de remplir les cagnottes. La voix du croupier qui répète « 2 000 louis au banco !» Banco, c'est la voix d'Hélène. Elle perd et je vois sa jeune grâce, le duc de Worcester, jeter les 40 000 francs au croupier, comme il donnerait un shilling à un pauvre. Alors, il ne se quitte plus? Et Laurence oublié? Ah, nous allons voir. Non, non, ce ne sera pas pour rien que j'aurai mis ce soir le 101e visage de l'illustre Mr. Flew, et revêtu le smoking, le tuxedo de Sir Archibald. Et maintenant, le privé. La banque est fameuse. Déjà, on cite des chiffres. La caisse a avancé 10 millions à ses décavés tout en or. Le roi du café a perdu 3 millions. Sir John Watray en a gagné 5 dans une seule banque. Le petit José Ramos, courtage des Roms de Cuba, qui avait gagné 6 millions en 3 jours, les a reperdus entre 5 et 7. Il est revenu se refaire après dîner. La caisse lui a avancé sur sa signature 2 millions. Il a essayé un dernier tapage. On a consenti à lui avancer encore 500 000 à la condition qu'il trouverait un endosseur. Il l'a trouvé. Avec ses 500 000, il a refait ses 6 millions, puis il les a reperdus, puis plus les 500 000 naturellement. Et maintenant, il est au bar, où on ne fera pas crédit d'un sandwich, car nul n'ignore que le petit José est très au-dessous de ses affaires. J'entends tout cela en regardant la partie. J'ai des bavards dans le dos dont un me crache dans le cou. Je me suis stoïque. La conversation est intéressante. Ce sont deux bijoutiers qui se renseignent. La situation des joueurs leur donne des indications sérieuses pour leurs opérations du lendemain. Sur la table, ce sont des centaines de 1 000 francs que la palette du croupier étale avant de payer entre chaque coup. Il semble qu'il n'y ait qu'à se baisser pour en prendre. Le banquier a une déveine folle. C'est Z, le grec milliardaire. J'ignore ce que je peux bien avoir dans mes poches, mais j'ai dans la main 3 plagues de 10 000 qui me brûlent. Et impossible d'approcher. Enfin, je parviens à me glisser et à les jeter sur la table. Je gagne. Laisse porter et je ramène 120 000. Puis je ne risque plus que 2 plaques. Je perds mes 20 000 et je me sauve avec mes 10 plaques dans la main. À la porte du privé, je me trouve en face d'Héléna. « Oh, vous voilà, Néa, je me demandais où vous étiez passé. Donnez quelques petites choses pour jouer. » Et elle me prend mes 10 plaques. Je la regarde partir avec mes 100 000 francs. J'ai un peu chaud. Je me dirige vers le bar. La joyeuse réunion autour d'Harry, qui m'accueille avec des transports et passe un petit insigne bleu à ma boutonnière. Aussitôt, des acclamations, des hurrahs que les valets de pied accourus font taire. Ne troublons pas les joueurs. Et les verres se lèvent. On me fait boire je ne sais plus quel mélange multicolore. Je dois avoir une figure très sympathique à ces messieurs. Il y en a un qui m'embrasse comme un frère, en me déclarant que je suis la plus aimable butterfly, mouche de bar, qu'il ait rencontré de sa vie, et que je ferai honneur à la corporation. Ah, il paraît que je fais partie maintenant des Blue Bottle Flies, enfin de l'IBF, l'International Bar Flies, qui étend son empire dans tous les lieux in the world. Et les cocktails commencent depuis le Kiss Me Quick, baise-moi vite, jusqu'au Love's Dream, rêve d'amour. Cependant, Carrie m'apprend le catéchisme de ma nouvelle religion et m'instruit des devoirs qui m'incombent. Sachez donc que l'IBF est une organisation secrète et fraternelle consacrée à la grandeur et à la décadence des buveurs sérieux, que tout membre arrivant à une trappe à 5 heures du matin est capable de jouer à l'ukulélé sans répétition et est éligible à vie, que tout membre frappant du menton la barre du comptoir en cas de chute est suspendu pour 10 jours, que les tapes sur le dos après 6 verres doivent être tempérées d'un peu de douceur. Se souvenir au cours des démonstrations aussi que certains membres ont de fausses dents, ce qui commence à larmoyer au sujet de la meilleure petite femme du monde qui est restée à attendre chez eux, devront payer une tournée. Assurément, cette petite instruction ne se serait point terminée là, mais elle fut interrompue par Lady Helena, qui me toucha l'épaule et que je suivis malgré les protestations les plus véhémentes. Elle était souriante, mais ses mains vides, dont les doigts s'agitaient d'une façon assez significative, me renseignaient sur le sort de mes 100 000 francs. « Je vais me débarrasser de Fatih, » me dit-elle. « Vous me rejoindrez sur la terrasse. » À la caisse, je vidais mes poches. Oh, j'étais encore plus riche que je ne l'espérais. Tout compte fait, je rangeais 70 000 francs dans mon portefeuille. Les billets, le champagne, les cocktails et mes 100 000 francs si galamment abandonnés aux doigts d'une aimable lady. Au fond, je ne doute pas qu'elle me les rende, m'ont mis dans des dispositions assez combatives. Je m'imagine que je vais diriger l'aventure. Pauvre Lawrence! Je ne l'ai pas plutôt senti à mon bras, la belle noble dame, et si proche de mon flanc, je n'ai pas plutôt senti le mouvement de sa jambe contre la mienne que je m'avoue vaincu sans réserve. Plus une idée, plus une réflexion. Pas même le « me les rendra-t-elle » qui a commencé à me hanter. La nuit est noire comme sa robe, je Je le vois que son soulier d'argent à côté du mien. Tous ceux qui m'entourent n'existent plus. Les pelouses, la plage, la mer vers laquelle nous descendons dans cette solitude obscure, l'odeur du vent d'ouest, il n'y a plus rien qu'elle et son parfum. Elle m'emmène où elle veut. Il n'y a même plus d'étoiles au ciel, plus qu'elle et moi sur la terre et sur ses planches, derrière la nuit plus opaque des cabines. Nous ne nous sommes pas dit un mot. Et tout à coup, je lui prends la tête entre mes deux mains et je lui colle ma bouche sur les lèvres. Elle se dégage et s'enfuit toujours en silence. Je cours derrière elle, mais je l'ai perdue. On ne voit pas à 10 pas. Je la cherche à tâtons dans les ténèbres. Elle est partie vers la mer que j'entends. Je l'appelle. Elena, Elena. Rien ne me répond. Je cours comme un fou. Je rencontre la lame doucement expirante et qui me mouille les chevilles. Je reviens sur mes pas. Je les mêle. Et soudain, je trébuche contre un corps. C'est elle. Et je m'écroule à mon tour. Je la roule dans mes bras. Ses lèvres me rendent goulûment ma morsure, les seins tant attendus sont ma proie. Et j'ai cette lady, dans sa robe de gala, avec la violence et le saccage d'un portefeuille qui prend une fille sur les dalles d'un port, derrière un chargement de cacahuètes. Étrange lit d'amour qu'elle a choisi là. Elle m'y tient prisonnier comme si elle ne voulait plus me lâcher jamais. Mais mon étreinte est aussi prolongée que son insatiable désir. C'est la lame qui nous chasse. J'ai pu penser un moment qu'elle voulait que nous nous aimions jusque dans la mer. Quand elle se relève, elle dit simplement « Oh, que c'est joli! Isn't it ?» C'est sa façon de remercier, paraît-il, et de témoigner sa satisfaction. Elle secoue sa robe. Je la reconduis devant le casino où nous nous trouvons nos autos. Elle m'y fait monter. Elle me dit « Laurence, cher Laurence, je vous attends cette nuit. »« Ah bien, ça va, right-o !» Elle ajoute encore « Par la fenêtre !» Enfin, comme l'auto s'arrête devant la porte de l'hôtel. « Laurence, je vous adore !» Dans le vestibule, je lui baise la main très cérémonieusement, puis je regagne ma chambre. « Helen Maria, comme jure Elena dans les moments d'abandon, je devrais être heureux de ma soirée. Mes affaires vont bien, tout marche à souhait. Avec ma chance, je n'ai qu'à puiser là-bas, dans ma grande maison. Si j'avais voulu ce soir, ou plutôt, si j'avais pu, je n'aurais pas été quasi anéanti par un gain aussi minime. Je suis parti du privé d'une façon ridicule, comme si j'avais volé, comme si j'avais les gendarmes à mes trousses. Et c'était le moment de ponter et ferme. Un quart d'heure de cette veine, et c'était peut-être 1 million. Que j'enlevais. Est-ce qu'on sait jamais? On a vu des choses plus rares au jeu. Je n'avais pas épuisé la déveine de l'armateur grec. Car c'est cela, uniquement cela, qu'il faut toujours jouer, la déveine des autres. Elle est plus visible que la flamme qui s'est allumée sur la tête des apôtres. C'est le seul système. Je m'y tiendrai désormais jusqu'au bout. Système d'un renseignement sûr et de tout repos. Me voilà bien tranquille pour demain et les jours qui suivent. Et l'amour, oh, pas banal mon aventure avec Lady Elena. Dans mes rêves les plus fous, avais-je imaginé de posséder une telle femme dans de pareilles conditions? Moi, petit avocat stagiaire, qui hier encore faisait les couloirs, j'ai bousculé sur la grève une reine de beauté qui a ses entrées à Buckingham Palace. Et elle ne doit pas le regretter. Alors, pourquoi ma joie n'est-elle pas complète? Qu'est-ce qui lui manque? Helena ne vient-elle pas encore de me dire « Je vous adore » et elle m'attend? Oui, elle m'attend, mais elle ne m'a pas dit « Je vous adore ». Elle m'a dit « Je vous adore, Lawrence ». Eh bien, je suis jaloux de Lawrence. Quel homme était-ce donc, ce Lawrence? Pose honnêtement la question. Quel homme est-ce donc, ce Mr. Flo? Pour que, sortant de mes bras, Helena n'ait qu'un soupir de reconnaissance pour l'ami retrouvé. Je croyais l'étonner. Elle n'a pas paru étonnée du tout. J'en serais inquiet si j'étais moins vexé. Triste fou, tu devrais te réjouir. Plus tu seras Lawrence en toute occasion, plus tu auras ta partie gagnée. Est-ce bien sûr? C'est ce que j'ai rêvé de jouer une autre partie que celle-là, moi. Allons, maître Rose, la nuit n'est point terminée. Si tu crois que la victoire est encore en suspens, profite des dernières heures qui te restent avant l'aurore et triomphe. Joue ton va-tout. Qu'elle s'écrie encore avec cette fois dans un râle suprême. Je ne vous reconnais plus, Lawrence. J'ouvre ma fenêtre sur la terrasse. Un ray de lumière glisse sur ma gauche entre deux rideaux mal joints. C'est là. J'enjambe les balustres. Oh, nuit de jeunesse, nuit d'escalade. Déguisé comme un voleur, je cours à l'amour comme à un crime. Mais les obstacles ordinaires de la vie n'existent plus pour moi. Je suis hors de tout et hors de moi-même. Je ne suis plus qu'une force et qu'un désir indomptable. On m'attend. Je plonge dans l'odeur chaude de ton parfum et tu me reçois dans tes bras avides, Helena, ma bien-aimée. Mettez-vous à ma place, à mon âge, au centre de cette aventure fabuleuse qui me roule dans les ténèbres comme cette femme me roule dans son lit, et je vous défie d'en parler sans un peu de romantisme. Tout cela aurait l'air très château en Espagne si je n'avais pas à la cheville le bracelet très réel qui me rive à la chaîne des forçats. Cela commence par une échelle de soie, et cela va peut-être se terminer demain, tout à l'heure, par un départ à l'île de Ré. Nuit de volupté à fond de terreur. Il y a des moments où je comprends que l'on étrangle la femme qu'on aime. Elle gémit, mais elle ne se plaint pas. Elle ne dit plus « Oh, que c'est joli, my dear !» Peut-être a-t-elle compris que je l'eusse tuée, peut-être comprend-elle que je suis prêt de la tuer? Cela ne me déplaît pas, quelle est la terreur de cela? Cela entre dans mon plan, son amour et son épouvante. Et peut-être aussi que cela ne lui déplaît pas non plus. C'est une femme qui ne doit pas avoir peur de la mort, surtout quand elle s'accompagne de la plus violente caresse. Oh, Helena, jusqu'au fond de quel abîme sommes-nous descendus tous les deux, accrochés l'un à l'autre et déchirés l'un par l'autre? Celui qui voit dans la nuit éternelle ne saurait dire si nous voulons nous séparer ou nous réunir. Mais tu ne remonteras pas sans moi. Ta chair ne gémit plus, je n'entends plus ton souffle. Après tout, tu es peut-être bien morte. Je tire un rideau, les premiers rayons du jour. Tu dors comme une enfant repue. Ta lèvre qui saigne sourit. Des perles roses roulent sur tes seins, sur tes bras crucifiés, Et moi, je dois être beau, avec mon visage de buveur de vin et toute la pommade glacée de l'honorable G. Hall Prim. Oh, j'aime mieux ne pas voir ça. J'entre dans la salle de bain, je plonge toute cette magnifique marmelade dans le lavabo, savonnage, serviette, éponge. Devant la glace, un bel adolescent de 20 ans, au teint de jeune fille. Pas plus de poils sur les joues qu'Elena aux aisselles. Tout de même un peu de poudre de riz, de sa poudre à elle, le cher démon. J'ouvre la fenêtre d'un geste à conquérir le monde. Quelle belle journée, quelle fraîcheur! Et là-bas, le doux soupir de la mer dorée par l'astre radieux qui monte derrière nous. Le soleil d'Austerlitz. Fais donner la garde, mon empereur. Je rentre dans la chambre, j'appelle le jour à mon secours, le jour qui peut-être va me tuer. Et quand les rideaux ont glissé, je me suis penché vers elle, éclairé par la pleine lumière, et je l'ai appelée à son tour, du fond de son sommeil ou de son rêve, que nourrit encore la volupté. Elle a ouvert les yeux, ses yeux immenses, ses yeux aux paupières lourdes et noires de tant d'amour défunte. Elle m'a fixé un temps très court, qui m'a paru effroyablement long. Et comme elle se taisait, et qu'elle paraissait ne rien comprendre ce qui lui arrivait, ni pourquoi ce jeune inconnu la dévisageait dans son repos, je me suis penché davantage, tout près de sa bouche, pour y étouffer sous la mienne le cri qui allait en jaillir. « Regarde, lui dis-je, regarde, Elena. Ce n'est pas Laurence qui est là, il n'y a plus de Laurence. Apprends le nom de celui qui t'aime et connais son vrai visage. Je suis, mais elle me ferme à la bouche. » D'une main lasse en murmurant « Oh, I know, je sais. Ne jouez pas la chèvre qui a le vertige. » Et elle se rendormit.